Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ici, nous essayons d'en savoir un peu plus sur l'état d'esprit d'un footballeur professionnel. Allez, c'est parti. Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, bienvenue dans Kilomètre 42, le podcast dans lequel nous parlons de sport, de course à pied, de trail, mais aussi de remise en forme et de mouvement dans tous les sens. Et aujourd'hui, on va vraiment parler de ce sujet-là avec un invité que peut-être vous n'attendiez pas à retrouver sur ce podcast, et ça fait partie du charme de ce podcast. Mais d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'étais gamin, je rêvais de devenir footballeur professionnel. Bah oui, comme beaucoup de gamins de l'époque, hein, mes idoles étaient un peu Platini, mais surtout Giresse, Stigana ou encore les jumeaux Zlatko et Zoran Bjovic. C'était, pour les connaisseurs, la grande époque des Girondins de Bordeaux. Bah oui, gamin, je rêvais d'être un joueur des Girondins de Bordeaux, équipe pour laquelle j'ai toujours, je dois le dire, un petit faible. Bien entendu, vous le savez, la suite de ma vie fut bien différente. Le football s'est arrêté très tôt pour moi, et comme me l'explique mon invité du jour, bah, je suis pas le seul. Il y a beaucoup de gamins qui font ce rêve, et bien peu, qui réussissent. Et lui fait partie de ces joueurs qui ont réussi. Lui fait partie de ces jeunes qui ont passé toutes les étapes. Steve Savidan a pratiquement mon âge. Nous aurions pu nous croiser sur un terrain. Hein, on a 2 ans d'écart. J'aurais même rêvé de le croiser parce que ça aurait signifié que j'aurais réussi mon rêve de gamin, devenir footballeur professionnel. Mais moi, en tant que défenseur, je l'aurais probablement maudit car il aurait probablement planté un but à mon équipe et ça m'aurait foutu la rogne. Car si Steve Savidan a été surnommé Savigol, ce n'est pas pour rien. 378 matchs pendant sa carrière en Division 1, Division 2, Nationale, l'équivalent de la 3ème Division. 117 buts, 81 passes décisives. Oui, il était décisif un match sur deux. Sélectionné une fois en équipe de France, sa carrière se termine pourtant brutalement alors qu'il doit signer à Monaco. La visite médicale révèle alors une anomalie cardiaque d'apparition récente. Bon, de cet épisode-là, on n'a pas vraiment beaucoup parlé, et puis il en a fait un livre, hein, si ça vous intéresse de connaître toute l'histoire. Moi, j'avais un petit peu oublié Steve Savidan. Il y a quelques semaines, pourtant, je le retrouve par hasard sur Instagram. Alors, me demandez pas comment j'ai fait pour le retrouver, parce que je ne l'ai pas cherché. C'est le hasard des recherches, des hashtags ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je l'ai découvert sur des activités que je ne pouvais pas imaginer qu'elle pouvait avoir un ancien footballeur professionnel. Coach, préparateur mental. Il accompagne des sportifs à réussir leurs objectifs. Mais aussi, et là, peut-être, c'est peut-être plus surprenant pour moi, en tout cas, quand j'ai découvert, des hamsters, oui, des hamsters comme nous, hein, comme ça, à retrouver la forme. Alors là, je me suis dit, il faut quand même que j'en sache un petit peu plus. Je l'ai suivi sur Instagram, il me suit en retour, je l'invite à participer au podcast, et en quelques minutes plus tard, j'ai Steve Savidan au téléphone. Là, je dois vous le dire, j'étais parti marcher sur mes chemins, tranquillement, au soleil, hein, ce jour-là, je me rappelle bien, je marchais tranquillo, et là, quand je vois mon téléphone, où tout d'un coup il me dit bah appelle-moi, je dois te dire, le gamin que je suis qui rêvait de devenir footballeur professionnel n'en revient pas, bah oui il est toujours en moi. Et pourtant telle est la magie du podcast. Voici maintenant, vous savez pourquoi vous allez écouter aujourd'hui Steve Savidan. Ensemble, nous avons discuté de son parcours de footballeur, du plaisir disparu dans le jeu, des difficultés inconnues de ce métier pour le grand public. Oui, parce que finalement, hein, ça paraît être un sport, un métier qui paraît tout flamboyant, mais on voit pas beaucoup de choses des à côté qui sont très compliquées. On a aussi parlé de son approche de la préparation physique, de la préparation mentale, de ses tactiques et méthodes d'entraînement running qui sont pas celles que vous trouvez ailleurs, mais parce que justement il a une approche de la vie du sport qui sont vraiment propres à lui. Et puis nous avons aussi parlé de comment atteindre nos objectifs, de comment progresser, de comment finalement il veut accompagner des gens, comment il est arrivé à ce métier-là et comment lui veut accompagner des gens dans leur nouvelle vie, dans leur changement de vie, quel type de gens il accompagne et qu'est-ce qu'il peut bien leur dire. Et vous allez voir que par certains aspects, on est assez proche hein, dans cette vision finalement du mouvement, de retrouver le mouvement et de retrouver du sport. Bon, maintenant, avant de vous laisser avec Steve Savidan, je vais vous faire mes quelques rappels habituels, mais vous savez, c'est extrêmement important parce que c'est ce qui permet au podcast de se développer et donc à moi de poursuivre mon rêve de devenir sportif pro à ma manière, hein, de devenir champion du monde de mon monde. Vous pouvez bien entendu partager le podcast sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram ou Twitter avec le hashtag KM42podcast et puis vous pouvez aussi me taguer @BertrandSoulier. Et d'ailleurs, si vous m'écoutez sur Spotify, vous pouvez partager directement en story l'épisode, hein, vous allez dans votre application Spotify, sur l'épisode, vous cliquez en haut là sur les trois petits points en haut à droite, vous faites défiler, partager en story Instagram et hop, c'est à sa fiche. Hein, vous n'oubliez pas le hashtag et mon nom @Bertrand Soulier. Et puis en même temps, vous pouvez aussi montrer où est-ce que vous courez, où est-ce que vous faites du sport, où est-ce que vous écoutez. Et moi, je repartage ça tout autour de moi. Ça permet aussi de montrer comment on est tous heureux de courir et de bouger. Partagez aussi à vos amis, hein, le bouche à oreille dans le podcast est très 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 important. Abonnez-les, prenez leur téléphone, abonnez-les, dites-leur que ça peut leur être utile, qu'ils auront y trouvé des conseils et de la motivation. Je vous rappelle aussi que vous pouvez m'aider dans mon projet en finançant le podcast par le biais d'une plateforme qui s'appelle Patreon, c'est du financement participatif. À partir de 1€ par épisode, vous pouvez soutenir mon rêve à moi, hein, et vous obtenez les épisodes sans la pub, en avance, ainsi que mon journal d'entraînement, qui est un podcast privé tous les lundis matin. Je vous donne des détails, je vous explique exactement ce que je fais, sur quoi je travaille, sur quoi j'avance, quels sont parfois les prochains invités, quels sont les questionnements, quels sont les projets, et puis où j'en suis avec les détails, par exemple, de mes séances de sport, que je peux pas vraiment donner en détail hein, dans les épisodes classiques. Et puis, je dois vous le dire, parce que je vous l'ai pas trop dit, il y a tout l'univers du Hamsters Running Club, qui est d'abord la chaîne YouTube avec des vidéos complémentaires, alors notamment dedans, j'ai fait des vidéos sur mon ménisque, mais aussi sur de la motivation, sur la course, et puis à mes vlogs de course, bon, en tout cas quand on pourra reprendre les vlogs de course, et puis bien entendu le Hamsters Running Club, la communauté, le club bienveillant pour nous entraider à réussir nos défis, celui où nous discutons, nous échangeons, nous faisons des zooms ensemble pour discuter, nous partageons nos astuces, nos conseils, nos motivations, certains même arrivent à se retrouver pour participer à des courses, bref, hein, c'est un endroit où nous sommes tous là pour nous entraider à réussir nos défis. Mais maintenant, trêve de bavardage, il est temps de découvrir un peu plus l'état d'esprit de Steve Savidan en tant que footballeur puis coach. Allez, c'est parti. Bonjour Steve.
Bonjour Bertrand.
Bon, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors, je dois le dire, je suis extrêmement touché, honoré, parce que quand j'ai commencé ce podcast, je ne pensais jamais avoir quelqu'un qui a eu ta carrière comme invité. Alors, moi qui suis fan de foot, pour moi, je vois très bien et j'ai des images plein les yeux. Et ce matin, je dois te dire, j'ai regardé, j'étais dans la salle d'attente pour un rendez-vous médical, j'ai regardé quelques-uns des buts. Je me disais, waouh, il a fait le métier que je rêvais de faire quand j'étais gamin.
Bah, comme beaucoup de gamins, ouais. Comme beaucoup de gamins, c'est vrai que bah, le foot attire. Hein. Le foot attire, on va dire que c'est un des sports voilà, qui a un gros vecteur de... gros vecteur social, et c'est vrai que beaucoup d'enfants voilà, rêvent de devenir footballeur. Bah moi, voilà, je suis un peu un gagnant de l'Euro Million.
Et pourtant, quand je regardais ta carrière, parce que j'ai regardé ta fiche Wikipédia, et un peu la bio, etc., on peut dire que c'est un gagnant, mais un peu le gagnant tardif, non ?
Gagnant tardif, gagnant quand même. Pas forcément gagnant tardif. En fait, si tu veux, c'est qu'il a fallu, une autre maturation, un autre chemin, une autre trajectoire pour moi, parce que voilà, j'ai une enfance qui est pas forcément drôle. J'ai pas un parcours qui est forcément très sympathique, et puis un début de carrière qui est pas semé d'embûches en fait, parce que je me suis rendu compte quand même que c'était quand même pas mal, c'était quand même moi quand même qui me mettait quand même, excuse-moi le terme, mais qui me mettait un peu dans la merde. Donc, je dirais gagnant parce que, en fait, j'ai réussi à mettre tout un processus en place pour réorienter ma carrière à un certain moment donné où je pensais que j'allais complètement l'arrêter. Donc, tardif, oui, par rapport à l'âge. Mais en fait, je dirais plutôt un arrêt de carrière précoce. C'est plutôt ça.
Oui, alors ça, c'est vrai que c'est un événement qui rentre et sur lequel t'as écrit un livre, hein, il faut le dire. Mais c'est vrai que moi, j'avais l'image de Savigol qui plantait des buts, deuxième meilleur buteur du championnat de France. Et en fait, quand je regarde, je me suis dit, mais en fait, il y a eu d'autres clubs, il y a eu des passages qui ont été... où ça a peut-être pas été si linéaire que ça, en tout cas, avant que tout d'un coup, la Ligue 1, les portes de la Ligue 1 s'ouvrent. Et ce qui était, je sais pas si c'était ton rêve de gamin, d'ailleurs. Enfin, parce que, en moi, fait, c'était mon rêve de gamin, mais.
Voilà. Mais en fait, moi, mon rêve de gamin, bon, faut remettre tout dans un contexte. On est pratiquement de la même génération. Déjà d'une, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il y avait quand même beaucoup moins de foot à la télé. En fait, on avait une image du football professionnel. Moi, en tout cas, vers les années 90, qui me faisait rêver par la pratique. Par la pratique, je pense qu'on en arrivera tout à l'heure sur la pratique. Et mes parents n'ont peut-être pas fait tout bien, mais en tout cas, ils ont fait quelque chose qui aujourd'hui me suit, c'est qu'ils m'ont pas fait devenir ou d'être footballeur, mais en fait, et c'est ce que j'essaye de transmettre à mes enfants, c'est d'être d'abord un sportif. Et moi, aujourd'hui, qui suis entraîneur dans le foot, sur une particularité, j'essaye de faire passer ce message qu'avant d'être un footballeur ou un basketteur ou un skieur ou un rugbyman, il faut d'abord aimer le sport. Et dans sa globalité, le sport, le foot, est un sport de mouvement. Et j'ai du mal à comprendre cette philosophie, j'allais dire, qui est apprise dans les centres de formation aujourd'hui, qui voudrait que c'est pas un sport de fond. Bah en fait si, parce qu'on se rend compte que avec toutes ces informations qui arrivent, si on a une grosse capacité à courir longtemps, en tout cas répéter les efforts, on aura justement une capacité mentale à pouvoir être alerte le plus longtemps. Donc moi je préconise dans l'enseignement du football des jeunes catégories. Alors bien sûr que de développer l'aspect tactique, et c'est pas de rendre que des joueurs athlétiques, mais je pense que fondamentalement ils doivent avoir une capacité, une endurance fondamentale très développée.
Mais d'ailleurs c'est un truc que moi j'ai remarqué au club, on a l'entraîneur, on a quelques coureurs qui font partie des meilleurs coureurs du club. Bon, ça fait un bout de temps que je les ai pas vus, mais à l'époque c'était encore dans les plus rapides. Ils venaient tous du foot. Alors, pas des footballeurs qui ont joué à haut niveau, mais des footballeurs qui ont joué au niveau, on va dire, au maximum en régional. Mais ce qui est vrai, qu'ont cette capacité à courir. Alors, des fois, certains blagues, ils disaient, moi, j'étais celui qui courait, à qui on envoyait le ballon toujours devant, qui revenait toujours comme ça, qui faisait les allers-retours. Mais c'est vrai que, passer à la course, ils sont redoutables, ceux-là, ces coureurs-là.
Alors, c'est vrai que, mais je pense que c'est aussi des coureurs d'un certain âge qui doivent à peu près être dans la même zone que nous. Aujourd'hui, je trouve que, tu sais, souvent on regarde et puis on dit, ouais, mais ils sont feignants. Non, mais c'est pas ça. Les jeunes, c'est pas qu'ils sont feignants. C'est qu'ils, déjà d'une, ils ne savent pas courir. Donc en technique de course, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Donc là, on est dans la technique de course. Et surtout sur le savoir courir. Le savoir courir longtemps. Et aujourd'hui, on se dit, oui, mais un attaquant, il doit savoir courir vite. OK. Un milieu de terrain, il doit savoir courir longtemps et répéter les efforts dans un sens et dans un autre. OK. Un défenseur, il doit savoir développer aussi une capacité de vitesse puisqu'il est en opposition à l'attaquant. OK. Les latéraux, non, mais en fait, moi, je comprends pas là. Alors, je suis pas préparateur physique dans le sens étymologique du terme, mais je comprends pas, en fait. Les fondamentaux athlétiques d'un footballeur restent pareils que de n'importe quel sportif. Plus tu développes ta capacité aérobie, plus tu es réceptif, en fonction après des filières musculaires. Mais t'es quand même plus réceptif à répéter les efforts. Quoi qu'il arrive, et ta base fondamentale, elle doit être sur l'endurance.
Alors, c'est quelque chose, j'ai fait une observation, moi, qui était dans ma jeunesse. J'ai m'occupé de la communication d'un club de foot. Et un jour, après un match, tous les joueurs ont été complètement cramoisis parce que c'était le match, je peux te dire, c'était un quart de finale de Coupe de France entre Monaco et Clermont. Clermont jouait à l'époque en Division 2 et le lendemain, ils ont fait les prolongations, ils auraient pu passer, mais tu sais, avoir un pied qui passe, un ballon qui passe un peu à côté. Et le lendemain, on a tous les joueurs qui sont cramoisis, sauf un, le plus vieux, qui lui continuait à courir, 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 courir. Et ce jour-là, j'ai demandé à l'intendant, j'ai dit, mais pourquoi? Il m'a dit, c'est celui qui a l'hygiène de vie la meilleure, mais surtout qu'il a eu le plus longtemps dans sa carrière, qui a toujours fait attention à ce qu'il faisait, et notamment l'alimentation, la récupération, etc. Et donc, qui, à la fin, alors je ne sais plus quel âge il avait maintenant, faisait partie, tu vois, avait toujours cette capacité à courir sans arrêt dans tout le match.
Ouais. Alors, l'hygiène de vie, c'est quelque chose qui est très, très bizarre parce que je suis le contre-exemple. J'ai tout fait pour ne pas y arriver. C'est comme ça. Et je pense qu'on est. Alors, c'est même pas je pense, c'est que je pense. Je suis sûr qu'on est tous inégaux devant la génétique. Et par contre, on est tous égaux aux capacités mentales. Et moi, en fait, si tu veux, c'est que quand je dis j'ai tout fait, tous les excès possibles et inimaginables, hormis la drogue, les drogues, je le faisais. Alors, au final, c'est des excès légaux, pardon. Moi, voilà, je fumais pendant ma carrière, j'ai bu de l'alcool, je mangeais sainement grâce à ma femme, mais au final, je faisais pas spécialement attention dans le côté macro-alimentation, voilà. Hein, je me suis jamais blessé musculairement, alors que j'ai quand même une forte musculation sur le bas du corps. Je suis un sprinter, mais aussi en endurant. Et j'ai des exemples hein, parmi tant d'autres pendant toute ma carrière. J'ai des potes, malheureusement pour eux, je suis du bois, mais bon, malheureusement pour eux, ils me disaient, mais franchement, mais Steve, mais comment tu fais? Moi, je suis toujours blessé, je bois pas une goutte d'alcool, je mange sainement, mais le plus sainement possible, je dors super bien. Moi, j'avais quand même, à l'époque, je jouais en Ligue 2 et Ligue 1, j'avais un bar à Valenciennes quand même, hein. Donc un bar-restaurant. Donc, Je lui dis, mais en fait, je pense que mentalement, t'es pas prêt, en fait. En fait, t'es prêt à te blesser tout le temps. C'est même une certitude, il y a des gens qui ont cet ADN en eux. Alors après, génétique comme elle est, hein. Mais ouais, qui sont formatés à se blesser régulièrement, quoi qu'ils fassent et à n'importe quelle intensité. Donc c'est pour ça que l'hygiène de vie, alors moi, je prône, hein, à un tel niveau, aujourd'hui, je parle, pas en comment je jouais. Où nous, voilà, on pouvait compenser quand même un petit peu. C'était un peu rock'n'roll quand je jouais encore. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a que 10 ans, un peu plus de 10 ans que j'ai arrêté. Mais je le disais à un jeune la dernière fois avec qui j'accompagne. Je lui disais, mais tu sais, moi, quand j'ai commencé à jouer au foot, c'était des mecs qui arrivaient des années 70. Il me dit, non, mais comment ça? Ben, je dis, tu sais, les vieilles photos où tu vois, ils ont des grosses moustaches et des tout petits shorts, tu vois, il n'y avait pas de protège-tibia. Moi, j'ai joué avec des mecs comme ça, quoi. Quand j'avais 16-17 ans, les mecs avaient arrivé sur leur fin de carrière, les mecs, ils arrivaient des années 70. Donc, tu lui parles d'hygiène de vie à ces mecs-là, mais ils te rigolent au nez. Ils te rigolent au nez. Maintenant, ce sont tous plus ou moins des entraîneurs qui prônent, c'est ça qui fait, qui prennent l'hygiène de vie. Oui, je veux bien, mais voilà, je crois que les machines, les Formule 1, c'est dans le détail, on en a discuté tout à l'heure, c'est dans le détail parce que maintenant, c'est arrivé à un tel niveau de performance qu'il faut faire attention à tout. Et là, je suis totalement d'accord. Mais j'ai aucune prétention et de me dire simplement qu'il faut se ramener dans le contexte dans lequel moi j'ai évolué. Et puis, j'ai jamais été aussi bon qu'à partir du moment où j'ai assumé qui j'étais et que je compensais. Je compensais. Tu savais que tu faisais un excès, tu ne le laissais pas passer. C'est que le lendemain, tu allais faire une double ration de course, tu allais faire une double ration d'entraînement, tu vois. Donc, en fait, tu n'as rien sans rien. Si tu veux faire un excès, pas de problème. Il faut que tu te payes deux fois plus.
Oui, c'est aussi ce que m'a dit un des joueurs, hein, notamment, parce que certains jours, quand on faisait des lives, des choses comme ça, ils disaient « Ah non, ça, je peux pas le manger parce que j'ai le match qui est trop près, mais bon, la prochaine fois, je sais qu'on a des gros entraînements, des grosses séances. » Mais tu sais, vu de l'extérieur, on a du mal à se rendre compte de la vie d'un footballeur professionnel, parce que les gens se rendent pas compte du quotidien d'un footballeur, de comment c'est fait finalement. Est-ce que c'est juste taper dans un ballon? Est-ce que... Parce que toi, tu disais en plus, tu avais un bar, un restaurant, donc déjà, c'est surprenant pour beaucoup de gens.
Ah bah bien sûr, mais comme je te disais, c'est une question de contexte, c'est une question de temps. Hein. Aujourd'hui, les joueurs de football, aujourd'hui, c'est des vrais athlètes. C'est des vrais athlètes. Mentalement, ça commence à arriver, la préparation mentale, moi qui est un de mes domaines, ça commence à arriver tranquillement sur le football, alors que j'accompagne plus de rugbyman aujourd'hui, ou de triathlètes, des personnes qui font des Ironman, j'accompagne des sportifs qui sont dans le ski, et le foot, un petit peu, mais majoritairement, c'est vraiment d'autres sports, parce que le foot, en fait, et je vais revenir au footballeur après, En fait, on a fait une délégation de pouvoir et de compétences aux entraîneurs. Les entraîneurs sont capables de pouvoir gérer mentalement, et on a mis une idéologie là-dessus. Et moins le rugby, parce que le rugby est plus anglo-saxon dans sa, dans son approche. Donc, c'est-à-dire qu'on fait des staffs avec des compétences diverses et associées. Le football, on a mis toutes les compétences sur l'entraîneur en disant c'est lui qui gère tout. Alors, on a rajouté des préparateurs physiques. Très bien. On a rajouté des préparateurs en nutrition. On a rajouté des analystes vidéo. Mais on est tous unanimes. C'est que si on regarde tous un match de foot, on va regarder un gamin et puis on va tous se dire non, mais lui, c'est le meilleur. Mais en fait, on va le regarder 3 ans après, on va dire il avait tout, mais comment ça se fait qu'il n'est pas passé? Et on va tous être pareil. On va dire ouais, mais c'est dans la tête. On fait tous le même constat et il n'y a pas de remédiation. Donc, moi, je trouve que, et c'est pour ça que je prône la préparation mentale au niveau des entraîneurs, déjà d'une, pour qu'ils soient déjà avertis de ce qui se passe. Mais d'autant plus que les entraîneurs, aujourd'hui, s'ils n'ont pas la compétence, c'est pas grave. Mais on leur dit, comme vous n'avez pas la compétence, c'est une sorte d'aveu d'échec. Vous ne savez pas gérer un groupe. Attendez, c'est pas donné à tout le monde. Il y a une différence entre être technicien, un tacticien, et puis j'allais dire, excusez-moi le terme, mais le mentaliste, quoi. Le gars qui est capable de rentrer dans la tête des mecs, et puis de les rendre performants, de comprendre un petit peu leur zone de blocage, c'est très complexe. Le cerveau est très complexe. Et donc, comme il y a plusieurs joueurs sur un terrain et à l'entraînement, bah, il y a d'autant plus de complexité. Et pour revenir aux joueurs de foot tout à l'heure, c'est que les mecs, ou les filles, c'est des machines de guerre. C'est des athlètes de haut niveau, ils font attention à la nutrition, ils font attention aux excès. En plus, on va y rajouter le médiatique, qui est une surcharge mentale, une charge mentale, une pression et une gestion du stress qui est très complexe. Donc, plus on monte, plus c'est compliqué. Parce que c'est pas simple. C'est pas simple. On dit, ouais, c'est des mecs qui sont surpayés. Ouais, mais vous rendez compte, déjà d'une, dans quel milieu ils sont. Et c'est qu'une infime partie de tout ce business que les joueurs récupèrent. Et c'est une infime partie des footballeurs qui gagnent bien leur vie, ou très bien leur vie. Les 2/3 des footballeurs aujourd'hui gagnent peut-être 10 000 euros par mois. C'est bien, ils ont entre 20 et 30 ans. À 30 ans, s'ils ont bien fait, ils mettent un peu d'argent de côté, mais il reste encore de la route quand même. Donc c'est quand même très complexe. Et puis en général, c'est une famille qui vit autour de lui. Donc, c'est pas si simple, mais c'est pas non plus la misère. Par contre, après, il y a des smicards du football, dont moi j'ai fait partie pendant une partie de ma carrière, où quand tu joues même en 3e division, tu gagnes 3 000 euros, quoi. 3 000 euros par mois, bon, ça fout pas le cul par terre quand même, hein. Ta femme, elle bosse pas parce qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut pas. C'est parce que quand tu déménages tous les ans, c'est difficile de s'inscrire dans un processus professionnel pour ton épouse. Et puis, il y a d'autres choses à gérer. Il y a tout un quotidien, bah, que le mec soit, ou la fille soit performant. Donc, c'est comme une équipe, hein. Ma femme, moi, c'est pas que c'est mon adjoint, mais on est une équipe de deux et on est là pour réussir. Donc, c'est pas si simple un quotidien de footballeur, mais de sportif en général.
Alors c'est vrai que, parce que vu de l'extérieur, ça paraît être une vie rêvée, en fait, on va dire. Et moi, pour ça, je revenais sur mon histoire de mon rêve. Mais c'est vrai que quand on voit un peu leur quotidien, moi j'avais vu un peu, parce que j'ai vu un peu les coulisses, et le coup des smicards du football, là, comme tu disais, c'est vrai. Et puis ceux qui ont aussi des rêves brisés. J'ai vu une stat sur ton compte Instagram, tu disais, il y a 1 sur 20 000 gamins qui arrivent à passer les premiers caps du centre de formation, de rentrer en centre de formation.
Ouais, en fait, il y a des stats qui sont tombées. Elles sont à la hauteur aujourd'hui de la mondialisation, hein. De toute façon, le football n'est pas exempt, et bien au contraire. Et justement, une des marques de la mondialisation, c'est 1 sur 20 000. Et sur ces 1 sur 20 000, il y en a 1 sur 3. Donc, on déroge encore, on descend encore les statistiques. Et là-dedans, le 1 sur 3, il signe professionnel. Il n'a pas fait de carrière pour l'instant. Donc, on va encore enlever, on va descendre les stats. Moi, quand j'ai commencé, la carrière moyenne d'un joueur professionnel, peu importe son niveau, hein, Ligue 1, Ligue 2, c'était entre 4 et 5 ans. C'est-à-dire qu'entre 4 et 5 ans, tu faisais une carrière. Aujourd'hui, c'est descendu à 2-3 ans. Donc, c'est compliqué quand même. C'est quand même compliqué. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent y aller. Alors, c'est pas le problème que tout le monde veut y aller, bien au contraire, il faut donner sa chance à tout le monde. Mais c'est complexe parce que y a pas les clubs, c'est pas extensible, bien au contraire, c'est que l'actualité nous prouve que ils veulent réduire les championnats en termes de quantité d'équipes. Donc les droits télé, voilà, ça baisse de plus en plus. Il y a des clubs qui commencent à devenir de plus en plus instables économiquement. J'ai toujours dit, et je l'ai dit il y a très longtemps, j'ai dit le football est un château de cartes. Et on n'en a jamais été aussi loin que la carte la plus basse en bas à droite, elle soit enlevée. Parce que ça, c'est un secteur économique qui est très, très, très fragile. Très fragile. La preuve en est, c'est que il y a pratiquement, l'année dernière, il y avait, je crois, 2 mois sans compétition. Et le secteur était à l'ouest, quoi. Donc c'est un milieu qui est très fragile.
Oui, puis on a presque un peu l'impression qu'il y a, comme les stades sont vides et ils peuvent pas être remplis, qu'il y a un peu une perte d'intérêt pour le spectacle, parce que les tribunes font partie du spectacle, quoi qu'en disent en plus les gens sur les supporters, sur toute l'ambiance. Moi, c'est vrai que quand je regardais les images de tes buts tout à l'heure, ce qu'on voit, les tribunes qui sont qui se lèvent d'un coup quand il y a un but. C'est ça aussi le spectacle, c'est ça aussi le foot, et on a l'impression que les sponsors, ça les intéresse plus, quoi.
Alors Bertrand, tu donnes un truc qui est exactement vrai, c'est un truc de dingue. C'est que la France, en tout cas le football français, prendra le très bon virage quand il comprendra et il acceptera que c'est un spectacle. Voilà. Quand on considère que le football professionnel est un spectacle, aujourd'hui, c'est pas rock'n'roll d'aller voir un match de foot dans un stade. Mais on va dire qu'on a le droit d'y aller. Mais c'est pas rock'n'roll. Il y a rien. Moi, je le dis honnêtement. Je trouve plus sympathique d'aller voir un match en régional ou en départemental qu'aller voir un match en professionnel. Les stades, ils sont aseptisés comme c'est pas possible. Il n'y a pas de show. L'extrême, c'est le Super Bowl, c'est la NBA. Ok, pas de problème. Mais nous, on n'arrive même pas à trouver une alternative à la française, une identité à la française. Alors, c'est bien de faire des salons, c'est bien de dire que les ultras, ils sont pas à leur place, c'est bien de dire que vous devez rester à votre place, mais il n'y a rien. Et je parle même pas du spectacle footballistique, hein. Je parle déjà de cette atmosphère. Tu vas au stade, tu vas voir un match et tu rentres chez toi. Voilà. Aujourd'hui, il y a 20 stades en France, je parle en Ligue 1, Ligue 2, allez, on va dire une quarantaine de stades. Si t'es pas féru, si t'es pas supporter de cette équipe, parce que c'est ça aussi qu'il faut parler, c'est que la France n'est pas supporter dans l'âme, on n'est pas supporter, on va supporter quand ça gagne, mais bon, éventuellement, on n'a pas cette identité anglo-saxonne ou latine, ou génétiquement, on est dans un club déjà. Génétiquement, on est dans un club. Et on va se marier avec sa femme ou avec son mari. Et puis même si elle est dans l'autre truc, jour de match, jour de derby, on se parle pas, quoi. Mais ça, en France, c'est très, très rare. Ou c'est régionalisé. Et en fait, où est-ce que c'est régionalisé? C'est dans tous ces bassins de population qui sont ultra populaires. Le nord de la France, avec les mines, qui ont une vraie histoire. On va dire que c'est à côté de Saint-Étienne, Lyon. Le sud de la France, parce que c'est assez latin. Mais le sud de la France, je parle du côté est. La Bretagne, parce que ça a une identité, on va dire, footballistique. Mais sinon, le reste de la France est une platitude extraordinaire. Tu vas au stade, tu prends pas de plaisir. Déjà, tu prends pas de plaisir à aller au stade, parce qu'il n'y a rien qui est fait pour t'attirer et te garder, et te donner quelque chose, parce que tu as quand même acheté ta place. Donc, il faut quand même, t'as acheté quelque chose, quand même, un spectacle. Et c'est une place de spectacle. Je pense que le football professionnel a vraiment une réflexion à avoir là-dessus. Et le football amateur a une autre réflexion. C'est peut-être dans, pardon, je dirais pas enlever ce côté compétitif, mais ramener en fait au cœur de cette identité et de cette appartenance je sais pas, le football en lui-même, c'est-à-dire que le côté convivialité, donc peut-être réfléchir à d'autres championnats, ça se monte de plus en plus. Moi, à Bordeaux, je joue dans un championnat privé qui appartient même pas à la Fédé. Les règles, elles sont celles du championnat. Il y a une AG, c'est top. Personne ne monte, personne ne descend. Alors bien sûr que on s'inscrit dans un championnat en début de saison, puis il y a des fois, il y a des équipes qui sont meilleures que nous cette année parce qu'elles ont mieux recruté. Mais on sait qu'on ne peut pas monter, donc on va se retrouver l'année prochaine. Et je trouve qu'il y a quelque chose à faire là-dessus, il y a quelque chose à réfléchir, parce que sinon, ça va mourir. Il faut se rappeler que le football, comme perd 10% de ses licenciés tous les ans, d'accord? Il y a un désamour sur ces règles de football, football à 11, sur un grand terrain, alors que la plupart des clubs amateurs ont déjà du mal à faire 11 personnes à l'entraînement. Donc, ça va être compliqué quand même. Les déplacements, tout. Je sais pas, moi je trouve qu'il faut. On est un peu archaïque quand même là-dessus. La digitalisation des clubs, t'en parlais tout à l'heure sur la communication, on est en retard. Moi, quand je fais l'audit des clubs, quand j'en discute avec eux, ils te disent ouais, mais Internet, c'est l'avenir. Pardon? Non, mais on est déjà au 4.0 presque. Donc, si t'as pas un peu de réseaux sociaux au niveau de ton club. Puis la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, en période de Covid, de distanciation, il y a des clubs, je parle même de clubs professionnels, alors, au niveau des centres de formation, qui n'ont pas pris le lead. Et ça devient très compliqué. Parce que l'appartenance, se sentir appartenir à quelque chose, ou à une entité, un groupe, une famille, est très puissant. Et quand tu ne te sens plus appartenir à quelque chose, et c'est ce qui arrive en ce moment, ce que tu disais tout à l'heure avec les stades, on se sent plus appartenir à un club, à un stade. Donc les gens, il y a un désamour. T'as vu, je peux parler beaucoup quand même.
Oui, mais moi aussi je peux parler très longtemps parce que tu sais, tu parlais tout à l'heure du jeu, de finalement que on en oublierait parfois que c'est un jeu, tu vois, parce que j'ai un souvenir quand même et ça concerne pas que le foot, ça concerne aussi le rugby. Parce que, bon, clairement, on a une terre de rugby aussi. On a un demi-stade de foot et on a un vrai stade de rugby, tu vois, mais
Je
c'est
sais, je connais bien Clermont.
ça fait partie des choses comme ça. Et un jour, j'ai vu un match et c'était, alors c'est pas Clermont qui jouait, c'était des jeunes. Et un international français disait de son fils, il dit, franchement, ils ont appris à jouer au rugby, ils connaissent les combinaisons, etc., mais ils n'ont pas appris à jouer.
Bah, en fait, si tu veux, tu sais pourquoi on est épaté par Neymar, par Messi, par tous ces grands, grands, grands joueurs, Zidane, même s'il n'a pas cette culture identitaire, mais en fait, tu sais, les Ibériques, quand ils apprennent à jouer au foot, en fait, il n'y a pas de règles. Et en fait, il n'y a pas de circuit. C'est du petit foot, c'est en général en futsal. Déjà, ils apprennent le futsal avant d'apprendre le foot terrain, comme nous on apprend. Et ils apprennent à jouer. Et ils jouent, à se débrouiller, à jouer avec un petit peu de règles, comme nous on dirait en France, tu sais, les règles de la rue, tu sais. Mais nous, excuse-moi, on est tellement bêtes qu'on dit que c'est des règles de rue. Mais non, du style, c'est la bagarre. Mais non, c'est qu'on s'adapte. L'âge, bon, bah, c'est comme ça. Le but, bon, bah, il n'est pas vraiment rectangulaire. Bon, bah, ok. Puis il ne fait pas cette dimension-là. Et puis, bah, des fois, ça se finit un peu en triangle. C'est pas très droit. Non, mais le plus important, c'est qu'il y ait une démarche de jeu, de s'amuser. Et en général, les Brésiliens, les Sud-Américains jouent. Tu regardes Neymar, il joue au foot, mais il prend du plaisir. Et c'est ça qui est incroyable. C'est qu'on dit qu'il est extraordinaire. Mais non, il n'est pas extraordinaire. Lui, il joue au foot. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à jouer au foot. Ce qui est extraordinaire, c'est de se prendre la tête, alors que c'est un jeu très simple. Alors après, bien sûr qu'il y a il y a des enjeux, il y a des stratégies. Mais dans ces stratégies-là, on peut y prendre un minimum de plaisir. Est-ce qu'on peut prendre un minimum? Est-ce qu'il y a une place pour le plaisir et que ça soit pas quelque chose qui soit très directif, très descendant, ultra oppressant, une certaine liberté? Alors aujourd'hui, tout le monde utilise ce mot liberté, mais une liberté de jeu. Tu sais ce que tu as à faire quand t'as pas le ballon, c'est-à-dire à bien défendre, mais quand tu as le ballon, ça y est, c'est du hurrah football. On se fait plaisir. Et si on marque 4 buts? Et si on en prend 3? Qu'est-ce qui est grave? Et si on a pris 3 buts, on a réussi à en marquer que 2, mais on a pris un plaisir énorme? Ah oui, mais Steve, avec ça, tu peux pas y arriver parce qu'il y a les enjeux, il y a tout ça. Ah, d'accord, mais là, c'est un autre débat. D'accord. On a voulu jouer, on a proposé quelque chose, on s'est fait plaisir. Bon, on a perdu, on peut pas gagner tout le temps. Bah, je sais pas, moi. Et ça reviendra à, on parlait tout à l'heure du spectacle. Tu sais, quand tu vas voir une pièce de théâtre, quand tu vas voir des artistes, quand tu vas voir un spectacle, un musicien, ben tu le vois, il fait la gueule. Alors, c'est sûr, hein, ça va être super calé, ça va être super pro. Ben souvent, c'est ce qu'on dit. Ouais, c'est super pro. Ah voilà, c'est super pro. Mais par contre, on va voir quelqu'un qui, sur scène, va prendre un kiff transmissible. Mais honnêtement, on est capable de lui... comment je pourrais dire ? De lui... de pallier à certaines petites erreurs, à certains accords, à certaines fautes de texte, à l'improvisation. Parce qu'on... En fait, il aura pris tellement de plaisir qu'il c'est communicatif, le plaisir. Donc, le football est un jeu avec de l'enjeu. Ah ouais, bah si tu mets que l'enjeu d'abord, bah forcément, excuse-moi, mais tu vas t'emmerder quoi, devant un match de foot quoi, ou un match de rugby.
Est-ce que c'est aussi le message que tu fais passer aux des gens? Parce qu'on va revenir maintenant... Bon, moi, je parlerai foot longtemps comme ça, mais on va pas oublier aussi qu'il y a un autre... Parce que c'est ça aussi que... En fait, j'ai manqué à tous mes devoirs, en plus, c'est que j'ai oublié de te demander de présenter... Parce que j'ai démarré directement sur le foot. Et j'ai en plus... J'ai même pas dit hein, ta carrière, par quel club t'étais passé, donc je referai dans l'intro, donc c'est pas grave, mais il faut quand même dire que t'es allé jusqu'en équipe de France, que t'as une sélection en équipe de France, tu parlais de bassin aussi, j'ai une dernière question sur le foot quand même, sur la Corse, parce que t'as joué en Corse.
Oui.
C'est quand même une terre un peu spéciale pour l'ambiance, etc., autour des équipes.
Ah, alors c'était top, mais c'est là-bas où j'ai été... C'est là-bas où j'ai pris le plus de plaisir. Alors, le contexte est favorable. Le contexte est favorable, mais en fait, c'est là-bas où j'ai fait le plus de sport et moins de foot. J'ai commencé à me mettre à la course à pied, à me balader, à la randonnée, à tel point qu'aujourd'hui, bon, moi, j'ai toujours mes amis là-bas, hein, ou ils sont toujours là-bas et c'est moi l'ami qui bouge tout le temps. C'est vraiment une terre où je sais où je me sentirais bien pour la personne que je suis aujourd'hui dans ce que je veux faire, du sport au quotidien, avec mes enfants, le côté nature et moins ultra urbain, même si j'aime bien la ville, mais c'est vraiment une terre en Corse où tout est possible en fait, et très rapidement. Parce qu'il y a une proximité et à la fois une distance, parce que quand tu vas te faire la montagne, t'es très loin de la ville, sans y être loin géographiquement. Tu vas à la plage, mais t'es pas loin de la ville. Mais tu t'abandonnes parce que c'est la plage et c'est la Méditerranée, c'est magnifique. Et puis, tu vas te faire des balades dans les forêts, t'as l'impression, mais t'es ailleurs, il y a pas de bruit, il y a un calme énorme, alors que t'es à 10 minutes d'Ajaccio, quoi. Et je trouve que ce côté, moi, je trouve que c'est une terre de découverte, mais c'est une terre de nature surtout. C'est magnifique. Donc, moi, j'adore ce contexte et je pense que c'est un contexte qui me sera favorable ça sera une destination favorable dans le futur.
Bon, en attendant, je t'ai vu courir sur les quais de Bordeaux, donc on est un petit peu dans une ambiance différente.
Carrément. Et justement, je ne sais pas si tu avais vu ma vidéo la semaine dernière. Ça faisait longtemps que ça me trottait. Alors, j'aime pas courir avec un masque. Mais bon, à l'heure où je cours, il n'y a pas grand monde. Bon, il y a un peu de monde, mais ça va quand même, tu vois. Puis là, en fait, j'ai pété un plomb parce qu'à Bordeaux, je veux bien comprendre qu'en pleine saison d'été, les touristes, l'impact économique, tout machin. Bon, allez, d'accord, je suis écolo, mais bon, je peux comprendre aussi certaines choses. Mais là, en ce moment, t'as une douzaine de bateaux sur les quais de Bordeaux qui tournent H24. T'arrives, il est 6h du matin. Tu te dis, ouais, tu vas courir, tu vas te faire du bien, même si je fais pas tout bien dans la vie ou dans la journée. Mais là, tu dis, tiens, tu te lèves, tu vas prendre un kiff et tout. Et puis là, tu prends du gasoil, mais plein la gueule. Et là, moi, j'ai pété un plomb, quoi. La semaine, il y a 10 jours, j'ai fait cette vidéo. Je suis pas le meilleur des écolos, je suis pas le meilleur des citoyens. Mais là, je comprends pas, quoi. Alors, il y a plein de choses que je comprends pas, hein, ou que personne ne comprend pas. Mais là, je comprends pas le truc, là. Là, je comprends pas. Pourquoi ça tourne? 24 heures sur 24, qu'on me l'explique, on est quand même en 2021, je sais pas, on peut tirer une prise électrique, et puis il y a personne à l'intérieur. En fait, ils sont là pour ne pas être ailleurs. Donc au final, je me rends dis aussi que s'ils sont pas là, bah, ils vont tourner ailleurs. Mais à un moment donné, voilà, donc je vais péter un plomb. Donc c'est vrai que moi, voilà, je suis urbain aujourd'hui. J'adore courir sur les quais parce que voilà, c'est assez plat pour ce que j'ai à faire aujourd'hui. Mais je sais que dès que je cherche un peu de relief, bon après c'est pas très loin de chez moi d'où j'habite, donc ça va. Mais je sais que dès que je pourrais bouger, j'ai envie un peu plus de dénivelé, et je sais que vers Clermont, il y en a un petit peu quand même.
Oui, on peut t'en trouver très 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 facilement, parce que c'est ce que la question que j'allais te demander, c'est quoi maintenant ta pratique sportive en fait? Tu fais quoi comme sport? Alors, t'as parlé de, tu joues au foot en championnat ouais, privé, mais autre à part ça?
Alors en fait, si tu veux, c'est que ma pratique sportive d'aujourd'hui, c'est une prise de conscience que j'ai eue il y a 5 ans déjà d'une, et ce qui m'a emmené en fait à faire mon métier d'aujourd'hui. Donc mon métier d'aujourd'hui, c'est coach sportif et mental, et j'accompagne avec une certaine démarche, mais que je vais expliquer suite à ça. C'est qu'en fait, il y a 5 ans, je me suis retrouvé à partir en vacances avec mon épouse, et puis on arrive, et puis on voit des amis qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, et puis je sens un appel de Steve, mais un peu hésitant. J'étais de dos, donc tu vois très bien l'image. Et un peu hésitant, elle répète une deuxième fois et je me retourne et elle me fait « la vache ». Et pas « la vache », j'ai ressemblé à une vache, quoique. Elle me dit « non mais Steve, on dirait un rugbyman de dos ». Et elle, c'est une femme de rugbyman, mon pote c'est un rugbyman. Et on ne savait pas qu'ils allaient être là en vacances à ce moment-là. J'ai pourri les vacances de ma femme. J'ai dit « non mais c'est pas possible, je me suis laissé aussi aller quand même, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est pas à elle que j'en voulais ». C'était plutôt à moi. Mais en fait, je m'en rendais compte. Je me pèse tous les jours parce que ça, c'était une habitude dans le sport, dans le foot. Je me rendais compte, mais je pensais que c'était juste du poids. Je pensais pas que c'était de la forme. Et là, j'ai associé le poids et la forme. Et mauvais délire. Donc là, j'ai pourri le reste des vacances, le début du reste des vacances de ma femme. Et puis, j'ai dit, c'est bon, j'y retourne. Et quand je dis j'y retourne, c'est ce que ça amène à ce que je propose aujourd'hui. C'est une autre approche du sport et surtout du bien-être. C'est que j'ai 42 ans, j'adore bouffer, j'adore boire du vin, je m'octroie quand même encore certains excès, mais j'adore faire du sport. Et comment c'est possible d'associer les deux? Puisque soit on est extrémiste dans un sens ou soit dans l'autre. C'est-à-dire qu'on fait tous les excès, mais on ne peut pas faire de sport. Puis à la fois, on fait, et je le dis, on fait beaucoup de sport, mais on ne s'octroie plus de plaisir ou d'excès. Alors, on trouve d'autres plaisirs, bien sûr, qui sont un peu transformables. Donc, j'ai modélisé un programme et qui fonctionne très bien depuis le début de l'année, et j'en suis super content. Mais en tout cas, pas moi, mais en tout cas, les personnes que j'accompagne, à qui je propose. C'est que, déjà d'une, je ne suis pas culpabilisant en termes de nutrition, je ne suis pas frustrant en termes de plaisir, simplement, mais c'est déjà assez fort, c'est que je m'applique à donner un coup de pied au cul aux gens. En disant, moi je le fais, je me l'applique, c'est possible aussi pour vous, tout en gardant, et je dis bien, donc c'est en fait, c'est tout en gardant votre notion de bien-être, plaisir mental. Je ne veux pas vous changer fondamentalement. Je veux juste créer un petit changement, une routine, une habitude, presque, et je vais même dire presque, en disant « je fais du sport, j'ai le droit de le faire » ou « comme je le fais, il faut que je fasse du sport ». C'est un petit peu, tu vois, c'est un petit peu dans ces deux sens. Et puis, de se dire que… Alors moi, honnêtement, ce n'est pas un jugement, hein, c'est une approche. Donc, toutes les approches sont bonnes. Il n'y a pas de souci, ça dépend de la personne qui la reçoit ou qui la donne. C'est, je m'occupe des gens que personne ne veut s'occuper. Parce qu'on va leur dire, on va être moralisateur, on va vouloir fondamentalement les changer. Non, si vous voulez changer, je vous propose simplement une approche, un début d'approche. Si vous voulez aller plus loin, ce n'est pas mon métier. C'est pas mon métier. Il y en a d'autres qui sont très bons là-dessus, mais ce n'est pas mon métier. Mon métier, c'est de vous créer une routine, une habitude et de vous remettre en route. Vous avez un peu de poids, Je vous promets pas de perdre 10 kilos en 4 semaines. Le mec qui vous dit ça, mais il est complètement taré, c'est pas possible. Je vais pas vous proposer de dire qu'en 4 semaines, c'est possible de sortir un marathon dans 2 mois. C'est pas possible. En partant du niveau zéro. Par contre, à la fin de ces 4 semaines, ces 5-6 semaines, tu auras peut-être une autre démarche, mais que je pourrais plus y répondre. Tu voudras t'enclencher dans du running. Vas-y, mais c'est pas moi. Tu veux t'inscrire dans une prise de masse, c'est pas moi. Mais le fait d'avoir cette prise de conscience, c'est déjà d'enclencher, je pense, une bonne attitude. C'est je fais pas tout bien, mais ça je le fais bien. Je mange pas super bien tout le temps, mais ça je le fais bien. Ouais, je me permets certains excès, un barbecue, une côte de bœuf, une bouteille de rouge. Ouais, mais je me le fais aussi. Ça, c'est mon plaisir aussi, c'est d'aller courir. C'est voilà. Donc en fait, c'est ça mon approche. Alors elle est peut-être indéfendable, je sais pas, mais en tout cas, je juge pas les autres, donc je ne demande pas qu'ils me jugent non plus. Voilà. Donc pour revenir à ta question,
je sais pas si elle est indéfendable. En tout cas, pour moi, elle fait partie d'une approche qui est peut-être de plus long terme aussi pour les gens. Parce que moi, j'ai eu le souvenir d'avoir ma diététicienne, quand on parlait de rééquilibrage alimentaire, etc., elle me disait, mais un régime, c'est tellement contraignant que de toute façon, tu exploses en vol. Et c'est vraiment réservé à des gens qui ont vraiment des gros problèmes et qu'il faut vraiment faire attention sur un point précis. Alors que le but du jeu, c'est pas de perdre sur le coup, c'est de trouver justement cette nouvelle dynamique.
Un point d'équilibre. En fait, c'est un point d'équilibre entre, moi, je me fais des programmes, par exemple. Moi, franchement, je m'éclate. Hein. Je m'éclate. Je dis pas que je suis à mon poids de forme, bien au contraire. Mais en fait, je suis au poids de ma forme. Est-ce que tu vois la différence? En fait, je m'accepte comme je suis aujourd'hui. Je sais ce que je fais. Je sais ce que je dois faire pour perdre 5 kilos. Je sais exactement ce qu'il faut faire. Mais en fait, non, parce que je sais ce que ça va engendrer derrière. Bon, je me fais 5 séances de sport par semaine. C'est pas mal, tu vois. Je me sens bien, je me suis remodélisé un petit peu. Je dis bien me remodéliser. Je me sens plein de patates. Bon, bah d'accord. Par contre, samedi, dimanche, tu me parles pas, quoi. Tu me parles pas. Parce que là, il va commencer à faire beau. Je vais sortir les saucisses, les merguez, voilà. Alors, je vais faire attention dans mon quotidien, tu vois. Je vais essayer de faire attention et d'essayer d'être vigilant. Mais bon, si j'ai envie de me prendre un carreau, je vais me le prendre, quoi. Je vais pas me l'interdire. Donc, en fait, c'est ça. C'est comprendre où tu es, ce que tu veux faire, ce qui te fait plaisir. Moi, le sport me fait autant plaisir que de manger une côte de bœuf aujourd'hui. D'aller courir ce matin, de me mettre un fartlek pendant 20 minutes, bah, j'explose en l'air, hein. Mais d'avoir fait samedi deux côtes de bœuf sur le barbecue avec débouchage de 4 bouteilles. Est-ce que tu connais Chicandier? Je sais pas si tu connais Jason Chicandier. Il prône en fait le bleu métal. Alors lui, il est dans le côté, je fais attention à rien. J'y vais plein délire. Et alors c'est l'extrême, tu vois ce que je veux dire entre celui qui fait rien et je le dis, hein, c'est en tout cas qui fait tout pour le sport et son boulot et puis qui met éventuellement peut-être certaines choses de côté, peut-être. Mais c'est volontaire, parce qu'il a un objectif, très bien. C'est son plaisir et son kiff. Puis t'as de l'autre côté, le mec qui fait pas du tout de sport, qui se met des carreaux tous les jours, qui mange de la côte de bœuf et tout. Bon, voilà, ça c'est les deux côtés, les extrêmes. Bah, en fait, moi je suis un petit peu entre les deux, où je suis un petit peu au point d'équilibre, à mon point d'équilibre, ça y est, je l'ai trouvé. Et bah ouais, j'aime bien où j'en suis aujourd'hui, quoi.
C'est ce poids, c'est ce que t'estimes en fait. Tu dis, j'ai pas un effort surhumain, je sais pas si on peut l'appeler surhumain, mais j'essaie de trouver un mot qui soit poli, mais j'arrive pas à le trouver. Mais on va dire qui t'emmerde plus qu'autre chose. Hein, enfin, moi je l'avais dit à une époque. J'avais dit à un moment donné, pour perdre les 2-3 kilos de plus que j'aurais voulu perdre à une époque, ça me demandait des tels efforts que ça m'emmerdait.
Mais c'est ça.
Donc j'avais décidé de ne pas le faire.
Mais tu vois, là, j'ai eu une personne que j'accompagne ce matin, Fabien, 44 ans, 1m88, 103 kilos. Un beau bébé, hein. Oui, il fait beaucoup de bagnoles et tout. Et puis, tu vois, il a commencé son programme lundi. Donc, toi, il a déjà fait ses deux premières séances. Ah, il me dit, si, tu sais, je trouve que c'était pas très intense. Je lui dis, Fabien, attention, je vais te le dire, c'est pas du tout intense. Ce qui va être intense, c'est de le faire tous les jours. Ça va être intense. Parce que ce que tu me dis, que c'était sur ta première séance de ton programme de 31 jours, tu m'as dit, ouais, c'était une sortie un peu dominicale. Je fais, ouais. Mais ça, il va falloir faire. Donc, tu la faisais que le dimanche. Il va falloir la faire lundi, mercredi et vendredi. Et le mardi, jeudi et samedi, il va falloir faire du renforcement musculaire haut du bas ou inversement bas du corps. Haut du corps ou bas du corps. Ah bah oui, il me dit, bah oui, c'est ça qui va changer en fait. Alors je lui dis, je te l'avais expliqué, je me suis peut-être mal fait comprendre la semaine dernière, parce que je propose toujours un entretien juste avant, parce que j'aime bien comprendre en fait où la personne veut aller, et c'est là où je l'accompagne quotidiennement sur le distanciel, mais au final présentiel, parce que je suis au téléphone avec lui, ou par SMS en sortie de séance. C'est que il n'y a pas de mystère, c'est que tu as toujours les résultats à la hauteur de ton engagement. C'est ce que je prône. Et comme tu le disais très justement tout à l'heure, je sais ce que j'ai à faire pour perdre ces 5 kilos. Comme je sais ce qu'il faut faire pour aller courir ou pour bien manger, je n'ai pas besoin d'un coach. Pourquoi je n'y arrive pas? Et c'est en fait cette dimension du coup de pied au cul que bah, certains ont besoin. Alors quand je dis certains, ce n'est pas comment je pourrais dire, tu sais, les culpabiliser, c'est-à-dire vous n'y arrivez pas, vous n'êtes pas capable. Non, bien au contraire. C'est pas du tout ça. C'est que hier, j'ai fait une vidéo en disant vous êtes perdu avec toutes ces méthodes, ces tutos, ces outils, ces applications, mais en fait, qui marchent pas. Mais c'est pas parce que, en fait, c'est qu'elles vous correspondent pas. Tout simplement. Vous n'avez pas trouvé la méthode qui vous correspond. Donc, moi, je rentre dans une niche, et je dis, hein, alors pas dans la niche, dans une niche, en disant, vous ne l'avez pas trouvé parce qu'en fait, vous avez mal cherché, mais dans le sens mal cherché, parce qu'on vous propose, et ça, c'est quand même assez global, c'est qu'on vous propose quand même quelque chose qui est assez commun. C'est que vous n'avez pas envie d'avoir les contraintes en faisant du sport. Mais les contraintes, pas de temps, hein, les contraintes de plaisir, parce que vous voulez conserver tout ça. Force est de constater que les personnes, sans leur dire ou leur interdire quelque chose, alors je les conseille en termes de nutrition, mais en s'appliquant déjà pendant 4 semaines un rythme quotidien de sport, je te le dis déjà, sans rien changer dans ta vie alimentaire, tu baisses, tu perds. Par contre, après, et c'est là où je te disais, si tu veux aller plus loin dans la perte de poids, si tu veux dans la prise de masse, si tu veux aller sur un foncier beaucoup plus haut, mais c'est un autre programme, c'est totalement différent. Où là, on va associer un peu plus de contraintes, parce que c'est obligatoire. Mais comme là, on n'est pas dans la performance, la seule performance, c'est déjà de commencer et de finir. C'est déjà ça. La performance de chrono, de durée, de distance, c'est pas pareil. Là, il faut aller plus loin. Donc, je te dis, moi, ce point d'équilibre, il est sur la notion de plaisir, autant sur ton quotidien, donc ce que tu as un peu l'habitude de faire, ce qui te fait plaisir, en ayant une vigilance, et puis surtout, le plaisir de faire du sport, de se mettre en mouvement, parce que c'est ça le plus important. Les gens vont te dire, ouais, mais moi, je le tiens pendant une semaine. Ah, ok, d'accord. Tu sais, est-ce que tu sais que pendant 21 jours, ton cerveau, il a besoin de s'habituer? En fait, si tu fais ça pendant une semaine, tu vas lâcher, mais c'est normal, ton cerveau, il n'a pas compris ce que tu lui demandais. Donc, il lui faut 21 jours, et c'est scientifiquement prouvé, il lui faut 21 jours pour comprendre ce qui se passe. Et il faut 90 jours pour que ça soit ancré. Cette règle des 21-90 jours, elle est scientifiquement prouvée. Alors, bien sûr, je vais toujours trouver des détracteurs. Mais en tout cas, je me la suis appliquée à moi et ça marche. Donc, elle pourrait marcher pour d'autres personnes, ou elle a déjà marché pour d'autres personnes. Donc voilà, il n'y a pas de prétention. Et ce que j'aime, c'est cette réflexion, c'est de faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. On peut faire des choses intéressantes quand même, sans partir à se prendre au sérieux. Alors, je ne dis pas, excuse-moi, hein, c'est un peu péjoratif ce que je vais dire, ou très cliché. Et on n'est pas obligé d'aller faire un 10 bornes et de chasser le gilet, la gourde. Tu vois, l'extrême, tu rentres dans l'extrême là. Non, mets une bonne paire de baskets, voilà, déjà. Si t'as un problème de mollet, va voir un podologue, va voir ton dentiste, c'est déjà les premiers conseils. Et puis, tu sais quoi, si tu vas courir avec un short militaire, c'est pas grave. Si tu cours en chemise, qu'est-ce que ça peut faire? Voilà, c'est une autre approche. Elle n'est pas meilleure, elle n'est pas moins bien, correspond à certaines personnes. Et elle me correspond à moi déjà, parce que pour être convaincant, il faut être convaincu.
Mais j'avais un peu la question, tu sais, le truc qui te dit, mais oui, mais toi, c'était facile pour toi, parce que toi, tu as été footballeur professionnel, ouais. Tu as toujours fait du sport, c'était facile de dire je fais du sport tous les jours.
Mais oui, et c'est ça qui est très intéressant, parce que le corps a une mémoire. Exactement. Et hier, j'ai posté un truc sur un fartlek que je me suis fait cette semaine. En fait, j'ai un programme sur 5 jours, je me suis fait mon programme, et je te dis honnêtement, je me le fais mon programme, voilà, je me fais mes programmes. En fait, c'est du testing pour les futurs programmes que je vais proposer, en fait. Donc, je suis un peu taré quand même. Mais je trouve que c'est intéressant de les tester à un cran. Toi, par exemple, là, j'étais sur un running à 15 km/h. C'est quand même pas mal pour un mec de 42 ans et qui fait des excès dans la vie. C'est quand même pas mal, tu vois. Pas mal. Alors après, ce qui est intéressant de savoir, c'est combien de temps. Fais quoi? Tu te fais un running comme ça de 40 minutes.
Les questions.
Ouais. Toi, 40-45 minutes à 15 km/h, c'est pas mal, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est cool. Et ça, c'est que le vendredi. Parce que le lundi, t'en as eu un à 13 km/h. Le mercredi, t'en as eu un à 14 km/h. Et entre les deux, t'as un running avec le kilomètre heure de la veille, plus un fartlek de 20 minutes à l'intérieur. Ah ouais, t'as ce matin, je fais mes 15 premières minutes. Toi, 13 km/h, je suis bien, je suis calé. Je commence le fartlek. Putain, je me dis, putain, c'est vrai que je suis parti pour 20 minutes quand même. Putain. J'avais mis la pleine patate sur les premières accélérations de 30 secondes, 45 secondes, 1:30 et tout. Puis en redescendant, bah, tu vois bien un peu le fartlek. En fait, je fais un fartlek pyramidal, tu vois, cette semaine. Tu vois, je monte et je redescends, tu vois. Ouais, je suis arrivé à la fin des 20 minutes. J'étais, mais éclaté. J'étais carbonisé. Sauf qu'il me restait 15 minutes à 13 km/h à faire. Et là, je peux te dire, les 13 km/h, ouais, c'est un peu costaud. Mais je sais que demain, en fait, comme j'ai mon objectif déjà de tester, parce que mon objectif, c'est pas la santé bien-être. Là, aujourd'hui, c'est le testing de mes programmes. Donc, c'est mon objectif, faut que j'y aille. Et le fait que faut que j'y aille, je suis pas fataliste. Je sais pourquoi je le fais. Et je sais que demain matin, déjà, c'est 14 km/h, quoi. Waouh. Et donc là, je suis sur un running fondamental, continu. Mais je dis, aïe, je vais avoir mon cardio fondamental avec mon fartlek à l'intérieur. Et ben, ouais, j'ai hâte. Donc oui, aujourd'hui, je fais du running parce que c'est quelque chose qui m'intéresse en fait, c'est plus de se retrouver tout seul. Voilà, c'est de se retrouver tout seul. Je suis très collectif dans ma vie, mais là, j'aime bien me la mettre tout seul, quoi. J'y vais, quoi. Je suis avec mes AirPods. J'ai envie de lire un livre, qui est un pléonasme. Mais toi, j'ai envie d'écouter un livre. Bah, je vais le faire. J'ai envie d'écouter de la musique à fond, n'importe quel type de musique. J'y vais. En général, quand je sais que j'ai une grosse séance, je vais pas lire un livre. Ça va pas être la sortie dominicale. C'est que je vais mettre une grosse session de rock ou d'électro de fou. Et puis moi, ouais, je suis taré parce qu'en plus, je suis très souriant quand je cours. Je suis très souriant et très poli. Pas sur la fin, pas sur les 5-10 dernières minutes, là, faut pas me parler. Mais je suis très souriant, je suis très agréable à tel point que des fois, je tiens le regard en disant « Non, mais je viens de vous dire bonjour, quoi. On vient de se croiser. On s'est croisé deux fois ce matin, ça fait deux fois que je dis bonjour. » Je sais pas, il y a un problème. Donc voilà quoi. Moi, je suis sur la prise de plaisir. J'aime bien l'attitude que ça donne en fait la course à pied. Et puis surtout, c'est que c'est un sport qui est complètement libre. C'est libre. Tu peux partir. Tu pars en fait pour 40 minutes et puis en fonction du planning que t'as. Mais tu peux t'arrêter au bout de 30 minutes si t'as pris un kiff de fou parce que tu vois quelque chose qui t'a émerveillé. Et puis, t'en as peut-être pas assez au bout de 45 minutes, bah, tu te rajoutes 15 minutes, et puis voilà, quoi. C'est un sport quand même qui est très libre. Si on parle de liberté, le running en fait partie.
Oui, alors, j'allais te dire, en plus, c'est marrant parce que c'est totalement l'opposé du foot. Enfin, j'ai envie de dire où le foot, il y a un temps, il y a des limites, il y a tout un cadre, et qui pourtant donne une extrême liberté quand t'es à l'intérieur du cadre.
Alors, c'est. Ah, la parade là, tu vois, c'est... là, c'est maintenant, c'est le préparateur mental qui va te parler. Parce que si tu attends que quelqu'un te dise, ou en tout cas que je te dise, ouais, il faut sortir de sa zone de confort, ouais, tout ça, prendre du recul, tout ça. Non, bah, en fait, je suis pas trop cette personne-là, moi, en coaching. J'aime bien la zone dans laquelle je suis. Je préfère parler d'agrandir ma zone de confort. Je suis bien dans ma vie, moi, aujourd'hui, moi. J'ai pas besoin d'en sortir. Qu'est-ce que j'ai à abandonner aujourd'hui? J'ai des choses à modifier, à améliorer. Moi, sortir de ma zone de confort, quelqu'un qui vient en face de moi et qui me dit « Ouais, faudrait peut-être que tu sortes de ta zone de confort. » Je fais bah, « Pourquoi ? Pourquoi ? Ma zone, elle est bien. Ma femme, mes enfants, mes amis, ma vie professionnelle, tout. Je fais en sorte. Bah, je préfère agrandir ma zone de confort et être bien dans ma zone de confort. » Par contre, là où je peux comprendre sortir de sa zone de confort, c'est là où on est vraiment dans un burn-out, tu vois, complet, là. Tu vois, où là, je peux le comprendre. Faut changer de vie. Donc, on abandonne tout ce qu'on a fait à faire avant. On y fait même un deuil. Et on en sort. On change. On recrée une zone. J'aime bien, moi, agrandir sa zone de confort. Moi, j'aime bien. Ça veut dire qu'on a une pleine conscience de ce qu'on fait, bien ou pas bien, hein. Des fois, c'est des allers-retours. Mais agrandir sa zone de confort, c'est quelque chose qui me va bien et c'est quelque chose que je défends dans mon quotidien. Dans mon quotidien, renforcer mes liens amicaux, sociaux, même avec des étrangers dans l'absolu. Hein, mais j'aime la vie que j'ai, que je me procure. Ma vie passée, j'essaye de l'améliorer, j'essaye des fois de la stabiliser, hein, parce que tu sais, on parle toujours d'améliorer, mais des fois c'est bien aussi de stabiliser. Et puis c'est pas facile quoi la vie quoi. Donc se recréer tout le temps des zones de confort, ça à un moment donné c'est fatigant quoi. Moi les mecs qui me disent ça, je dis ouais, tu te fais chier quoi en fait tout le temps quoi. Parce que franchement tu t'emmerdes tout le temps. Bah change, bah, vas-y, fais ton truc quoi. Va-t'en. Je fais plus. À partir du moment où le mec il te dit ouais, je veux changer de zone de confort, tu fais plus partie de cette zone. Donc ça sert plus à rien qu'on se parle quoi. Notre conversation ne fait plus partie de ta future zone de confort. Donc bah salut quoi. Là, des fois un fouteux ça va loin. Hein, où je vais dire pas juste... tous les fouteux.
Non mais c'est sûr. Mais les gens seraient surpris par savoir ce qu'il y a dans la tête d'un fouteux. C'est toujours amusant de parce que les gens ont toujours des idées fausses de toute façon sur le monde parce qu'on les connaît pas. Et puis comme pour ça je te disais, on idéalise aussi la carrière du footballeur. On voit plein de choses. Et puis quand on rentre un peu dans les coulisses, c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe. Mais sur la partie mentale, tu vois, c'est un point qui est intéressant. Tu disais, t'as la partie coaching sportif et coaching mental. Justement, tu vois, cette personne-là, tu disais tout à l'heure, t'es en coaching, etc. Mentalement, est-ce que tu vas lui donner des points, des astuces, tu vois, pour passer cette difficulté de se dire maintenant, il va falloir que je fasse du sport tous les jours. Est-ce qu'il y a des petits conseils, tu vois, des gens qui écoutent ça, qui se demandent comment
Bien
faire.
Sûr. En fait, ce qui se passe dans la préparation mentale, il y a deux grandes approches. En fait, il y a deux grandes approches. Donc, je ne vais pas me faire que des amis, mais ça fait un an et demi que je ne me fais pas que des amis. Et j'ai l'habitude et il n'y a pas de souci. En fait, la préparation mentale a été monopolisée par la psychologie du sport. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Depuis des décennies, ça a été monopolisé. À juste titre, parce qu'il n'y avait rien qui était en parallèle. Aujourd'hui, maîtriser la préparation mentale ou les outils de la préparation mentale sans avoir fait un cursus universitaire, mais en ayant une expérience de sportif de haut niveau, en ayant appris les bases de la préparation mentale ou en tout cas la structuration ou les mécanismes, je pense que ça a autant de légitimité que quelqu'un qui a fait un cursus de 3 ans à Clermont-Ferrand ou à Lille, parce que c'est les deux grosses écoles de psychologie du sport, en préparation mentale. En tout cas, historique. Je connais un peu mon histoire. Et là-dedans, c'est que je pense que c'est pas deux choses qui sont opposables, c'est deux choses qui peuvent être différentes. Mais les deux sont respectables. Parce qu'un sportif, il a peut-être pas besoin des deux choses en même temps. Pour moi, la psychologie du sport, c'est comprendre, analyser et remédier à des blocages du passé. Exemple, Steve Savidan, quand il était jeune, il n'a pas eu une enfance facile, il a un papa qui était alcoolique, il a eu des problèmes avec son père, qui lui créent peut-être des blocages à un certain moment dans sa carrière. Le psychologue du sport, de par les compétences qu'il aura acquises, va pouvoir peut-être débloquer certains freins. Très bien. Le préparateur mental, que je fais partie, n'a pas ces compétences-là. Et moi, je ne m'aventure pas là-dedans. Je n'ai pas ces compétences. Par contre, j'ai peut-être une compréhension, une certaine analyse, mais en tout cas, je n'interviendrai pas là-dessus. Le préparateur mental dont je fais partie, que je suis, c'est je te prends à un instant T, d'accord ? À un instant T, on fixe tes objectifs. J'essaye de comprendre à quel point ou à quel degré sont tes motivations. Deux principes sur la motivation, soit on améliore, soit on stabilise ta motivation. Tes motivations, les sens de la motivation. Et après, sur les objectifs, on va les fixer dans le temps, dans la difficulté, difficile et atteignable, et on va lui mettre des moyens et non plus les résultats. Exemple, tu as un défi de partir en 3 mois à ton marathon, on va définir un rétro-planning d'entraînement sur 3 mois, avec des séances quotidiennes ou non, mais voilà, on va de la nutrition, à quel moment, avant la course, voilà. On va fixer ses objectifs. Donc moi, les conseils que je donne, c'est d'abord d'avoir un objectif clair et défini, de le mettre dans le temps, long, court et moyen terme, d'avoir sa propre échelle de temps, parce que mon échelle de temps n'est pas la même que toi, Bertrand, ou une autre personne. Mon échelle de temps à long terme peut être 3 mois. Toi, ça sera peut-être 1 an. Une autre personne, son échelle de temps, long terme, ça peut être 2 ans. Donc, c'est bien définir son échelle de temps. Une fois qu'on a défini son échelle de temps, c'est d'y mettre des processus de moyens. Exemple, qu'est-ce qu'il faut que je fasse, déjà d'une, pour stabiliser mon poids ? C'est-à-dire que je ne veux plus en prendre. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Est-ce qu'il faut que je fasse un régime ? Non, parce que là, ça voudrait dire que tu vas baisser ton poids. Est-ce qu'il faut que je regarde dans mes placards ? Il faut que je regarde ce que je mange au final au quotidien. Donc déjà, une prise de conscience de ce que je mange au quotidien et éventuellement m'enlever certaines choses ou rajouter certaines choses qui peuvent me permettre de me sentir bien et de faire attention à mes muscles et à ma tête. Très bien. Et peut-être de m'interdire de m'enlever certaines choses. Ok, donc là, on parle des moyens. Moyens diététiques, moyens d'entraînement. Qu'est-ce que je vais mettre comme moyen d'entraînement ? Bon, dans 3 mois, il me faudra une nouvelle paire de baskets pour aller courir. Ben, est-ce que tu penses que c'est maintenant faut que tu l'utilises pour commencer à la faire ou te dire que dans 1 mois, il va falloir que tu les achètes ? Est-ce que tu peux l'acheter ou est-ce que tu prévois de l'acheter ? Bon, sache que plus tu te rapproches de la course, tu sais, ben, ta paire de chaussures. Voilà, c'est des exemples. Hein. Bon, forcément, les bons, mais en tout cas, c'est des exemples. Et en fait, c'est ces outils, en fait, ces objectifs de moyens qui te permettent additionner, d'arriver à un processus de résultats. Et non pas des résultats accumulés qui te permettent d'arriver à un. C'est un autre processus, ça. Là, on parle de la haute performance régulière. Exemple, sportif de haut niveau, match de foot. Lui, il a une échéance tous les samedis. Donc, il doit être en haute performance tous les samedis, mais même à l'entraînement. Donc, en fait, c'est quotidiennement qu'il doit être en haute performance. Donc là, c'est quand même la différence. Mais pour les sportifs comme nous, qui ont une activité quotidienne ou voire hebdomadaire, avec un objectif peut-être de faire des chronos, mais pas des trucs de fou, des bons chronos, le temps, donc dans les objectifs, les moyens, d'accord ? Et surtout, c'est que ce soit des objectifs qui soient difficiles mais atteignables. Pourquoi ? Parce que si c'est trop facile, bah en fait, tu as toujours ton ego qui fonctionne, mais en fait, tu ne progresses pas. Et puis, si c'est trop difficile, voire inatteignable, tu as toujours cette frustration et ce sentiment d'échec. Donc, il faut que ça soit dur, mais dans ta capacité d'y arriver, où tu vas développer des capacités pour y arriver et tu vas mettre des moyens pour y arriver. Donc ça c'est pour la fixation des objectifs. Puis après sur les motivations, parce qu'il y a plusieurs motivations, Moi, j'insiste énormément sur la notion de plaisir. La notion de plaisir est très importante pour moi. Donc, par exemple, moi, je vais te donner un truc que je me suis appliqué pendant très longtemps et que je continue à m'appliquer. Je ne fais plus de distance. C'est-à-dire que sur ma montre, j'ai enlevé les distances. Je ne synchronise même plus ma Polar à mon ordinateur avec une certaine distance. Je fais une sortie au temps. Par exemple, les quais de Bordeaux, c'est une boucle. Voilà, je passe un pont, je vais à l'autre pont, je reviens. Puis si je vais à l'autre pont, je sais combien ça fait de bornes. Les deux premiers, ça fait 9 bornes jusqu'à chez moi. Jusqu'au deuxième, ça fait 12 bornes. Bon, si je vais aller plus loin, bon, ainsi de suite. Mais ça y est, ça s'est instauré dans ma tête. Par contre, et je reviens aux objectifs, quand j'étais bien, j'étais en canne. Les 9 bornes, je les faisais avec un temps. Putain, j'étais super, mais j'étais en canne. C'est normal, j'avais bien mangé la veille, j'avais bien dormi. Super, je m'étais bien réveillé. Il faisait super beau, c'est génial. Puis il y a des fois, j'étais pas en canne. Ah, j'étais pas en canne. Mais je savais pourquoi j'y allais. À partir de mes objectifs et de ma motivation, je savais pourquoi j'y allais. Mais je savais que j'avais ces 9 bornes à faire. Et vous connaissez tous cette sensation. T'es même pas sorti de chez toi, tu sais très bien que ça va être dur. Tu le sais que ça va être dur. Et là, ton temps, il est à chier. Bah, c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure. C'est qu'en fait, dans la vie, en tout cas, c'est un parti pris, il n'y a qu'une seule chose qu'on peut gérer, c'est notre temps. Les kilomètres, on ne peut pas les gérer, il faut les faire. Donc, le processus, je l'ai inversé, je l'ai testé, je l'ai isolé, je l'ai tracé, on va dire, c'est l'heure d'état. Mais je l'ai expérimenté, je l'ai proposé à des triathlètes qui sont de très haut niveau, qui n'avaient plus ce sentiment de progrès. Je leur ai dit, vous m'arrêtez, vous prenez votre polar, vous m'enlevez les distances. Allez, c'est fini. Vous synchronisez plus. Voilà, c'est. Et j'ai une petite méthode que je vais te donner, que je vais vous donner. Le cerveau, pour qu'il comprenne, il faut qu'il y ait 4 répétitions minimum. Pour n'importe quelle méthode, n'importe quel processus, il lui faut 4 répétitions pour qu'il comprenne, qu'il assimile. Donc, pendant 4 séances, tu t'octroies un temps. Tu dis, voilà, je fais une sortie d'une heure. À telle intensité, tu gères ton intensité. Mais au lieu de partir sur une boucle, tu vas changer complètement tes parcours. Tu vas partir de chez toi, qui est le point A, et tu vas aller vers un point B. Et tu vas pas courir une heure. Tu vas courir 32 minutes à l'aller. Et au bout des 32 minutes, tu reviens sur le même chemin. Il faudra que tu fasses 28 minutes. Donc, on va changer complètement le processus de performance de distance par lequel on est prisonnier, qu'on soit bien ou pas bien. On va être au ressenti et au plaisir. C'est-à-dire que je ne vais pas me culpabiliser si à l'aller, je fais 32 minutes, mais je ne vais pas super loin. J'aurais fait mes 32 minutes. Mais au retour, j'aurais fait 28 minutes pour rentrer. Donc, il me faudra monter mon intensité. Mais après, c'est chacun qui doit jauger son milieu à plus ou moins de 2 minutes. Parce que c'est bon quand même, 4 minutes au retour, c'est quand même costaud. Hein. Et en fait, t'es à la sensation. Et je trouve pour que ce sentiment de progrès, il faut maîtriser un paramètre qui est le temps. Tu peux pas tout maîtriser. Quand tu veux progresser sur quelque chose, une technique de course par exemple, une technique au golf, une technique au football, il faut aller processus par processus. Tu peux pas tout faire en même temps. Une performance de kilos, de kilomètres, c'est une autre performance. C'est un marathon. Tu sais que tu dois faire une distance. Mais nous, on est tellement fous qu'on veut y rajouter une notion de chrono. Et déjà, fais tes 42 bornes, et puis après, on verra. Ah, tu veux faire, en fait, c'est pas pareil. Tu veux faire un running de 3h30. Donc, dans ce running de 3h30, tu auras 42 km. C'est deux choses différentes. Soit tu fais 42 bornes et tu vas à la sensation, d'accord ? Ou tu cours pendant un temps, mais c'est ambigu quand même. Donc moi, je prône pour le sentiment de progrès pendant un laps de temps hein, bien défini. Enlevez-moi votre kilomètre des montres. Et vous les synchronisez pas avec vos ordinateurs. Et vous verrez qu'à partir de la 4e, de la 5e séance, vous aurez gagné en kilomètres, sans le vouloir. Il faut changer de parcours. Donc voilà. Voilà des petits outils que moi je propose. Ça n'engage que moi, ça n'engage que mes méthodes. Mais voilà, je sais qu'aujourd'hui, moi, il y a des résultats. Et bah, ça me conforte. Et ça me, c'est pas me conforter dans le sens mon ego, hein, c'est pas ça. Ça me conforte qu'il y a d'autres idées que de faire du kilomètre, quoi. La prise de plaisir est aussi importante.
Oui, c'est une autre école, en fait, et c'est chacun, après, peut trouver des écoles. C'est très intéressant de discuter de tout ça avec toi. Non, j'ai plus d'autres questions, en fait. J'étais en train de chercher si j'ai d'autres questions, etc. Mais, puis, enfin, tu sais, moi, c'est mon plaisir. Après, je fais toujours un petit peu durer les choses. Mais, en fait, on va conclure ici. Je te remercie beaucoup pour le temps qu'on a passé ensemble. Mais par contre, on va rappeler quand même, on va dire, où est-ce qu'on peut suivre? Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce que on peut suivre tes programmes? Comment on peut retrouver des informations sur ce que tu fais? Comment on s'imprègne un petit peu plus de tout ça?
Alors moi j'ai créé tout un univers autour de justement ce que je te disais, mes valeurs, les valeurs de prise de plaisir, de prise de conscience. Bah déjà d'une sur les réseaux sociaux, donc Steve Savidan ou Savidan Steve, donc sur Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, TikTok, voilà. Et après
TikTok cherchez... aussi.
Ouais, ouais. Et après, vous mettez sur, vous recherchez, parce que le nom, en tout cas, de mon entreprise, c'est Coach Toujours au Taquet. Parce que voilà, on peut être toujours tous au taquet en ayant les mêmes bases de la valeur, mais pas en ayant les mêmes capacités, les mêmes compétences. Voilà. Ça, c'est au golf que j'ai appris ça. C'est qu'en fait, on peut partir à quatre avec quatre niveaux différents au golf. L'un ne peut pas finir sans l'autre, même si l'un est meilleur et pas l'autre. Tu joues avec Tiger Woods, il ne peut pas finir avant toi. Il a commencé la partie avec toi, il finit avec toi. Bah, c'est ça aussi la prise de plaisir. C'est qu'on peut faire une petite sortie dominicale avec ses enfants, avec son conjoint ou sa conjointe, avec des amis qui n'ont peut-être pas le même niveau, mais ils prennent du plaisir. Souvent, ce qu'on dit quand il y a des amis, quand on sait qu'on a un peu runner, « Non, mais je ne veux pas aller avec toi, tu cours trop vite. » Ou « Tu cours trop longtemps. » Mais quelle prétention on aurait à dire « Non, je cours avec toi. » Mais c'est prétentieux aussi de dire ça. C'est-à-dire que je me mets... Non, mais par contre, si on le prépare en lui disant « Bon, bah voilà, si ça te dit de courir, moi, je suis à ta disposition, on court ensemble, voilà, on se fait plaisir. » Sans parler de performance. Et puis, on court avec lui. Puis, bah, si on s'arrête de courir et puis simplement on discute, bon, bah voilà, on fait une balade avec un pote, quoi. Est-ce que ça peut être si hallucinant simplement de faire une activité comme ça? Par contre, quand on est parti... à tout seul à se la mettre, c'est un autre challenge. Là, t'es un challenge, t'es avec tout seul avec toi-même, tu sais pourquoi tu y vas, t'as bien identifié tes objectifs, tes mécanismes, et puis tu y vas pour te la coller. Donc voilà, c'est deux choses différentes, mais dans les deux, on peut y prendre du plaisir.
Eh ben, merci beaucoup pour cette philosophie. Tu conclus parfaitement cet épisode. Je te remercie beaucoup pour les conseils. Je mettrai de toute façon tous les liens dans les notes de l'épisode parce que j'ai regardé un petit peu partout. J'avais juste loupé le TikTok. J'avoue, j'ai loupé le TikTok. je me dis s'il y a du spectacle comme il y en avait sur le terrain, parce que c'est vrai que c'était cette image de générosité qu'il y avait sur le terrain, cette image-là que tu avais, qui était, je trouve aussi, dans le jeu, etc., qui était différente. Mais là, c'est le fan de foot qui parle, et puis on a presque le même âge. je me disais, ah, si j'avais pu jouer au foot, moi aussi, on aurait pu se croiser sur des terrains, pourquoi pas. Mais voilà, c'est comme ça, la vie en a décidé autrement, et je suis très content d'avoir pu te recroiser par le biais du podcast. Et je te remercie énormément pour ce temps passé avec nous et pour tous les conseils. Et je mettrai tous les liens dans les deux épisodes. Et puis nous, bah, auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao.
Salut à toutes et à tous. Bon running. Et n'oubliez pas, soyez toujours au taquet.
Bon, c'est encore moi. J'ai un dernier petit mot à vous dire avant de vous laisser écouter un autre épisode de podcast. Si vous avez apprécié cet épisode, je vous invite à vous abonner, bien entendu, au podcast. Vous pouvez le faire sur Spotify, Apple Podcasts et tous les lecteurs de podcasts. Mais aussi, si vous voulez, à laisser une petite note 5 étoiles sur Apple Podcasts. Vous savez que ça aidera le podcast à se faire découvrir et à permettre à plein de gens de découvrir aussi les vertus du mouvement. Allez, ce coup-là, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très belle journée.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Late bloomers tend to have more curiosity. They tend to have more resilience.
There are stories and mythology that this country has woven around black men.
This is the cavalry, right? These are the leaders, the hometown heroes and local leaders. And we are.
It's a survival mechanism to just be like worried of police.
What if everything we've been taught is just all wrong. What's worth more than this fear right now?
And that rising after failure is part of the glory of being a human being.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.